Bonjour et bienvenue sur Fréquence Mistral pour une nouvelle émission de 100% foot. On se retrouve avec mes invités Franck et Patrick. Bonjour les gars.
Salut.
Bonjour chérie.
Voilà, donc aujourd'hui un programme riche et copieux avec de la Ligue 2, de l'OM féminine, du National et de la Ligue 1 avec l'équipe première de l'Olympique de Marseille qui jouait contre la Saint-Etienne pour le compte de la 22e journée face à la Saint-Etienne. Donc un programme riche et copieux.
Absolument.
Et avant de démarrer cette émission, on voudrait avoir une énorme pensée pour un grand journaliste qui nous a quittés il y a 3 jours, M. Avi Assouli, qui a œuvré pendant plus de 25 ans sur les ondes de France Bleu Provence et Radio France à l'époque. C'était la voix mythique de l'Olympique de Marseille.
Bleu, oui, absolument.
Voilà. Et malheureusement, un grand monsieur de l'OM qui nous a quittés à l'âge de 74 ans dans la nuit de jeudi à vendredi. Voilà, on voulait s'associer et lui rendre un hommage comme il se doit sur les ondes de Fréquence Mistral pour cette nouvelle émission. Voilà.
Bouleversé ma vie radiophonique. C'est grâce à lui que j'ai connu mes premiers émois OMS-que grâce à sa voix. Voilà.
Voilà. Un petit mot, Patrick, on s'en avait assouli avant d'attaquer le...
Un journaliste supporter, parfois un peu chauvin, disait les mauvaises langues, mais moi je me rappelle de lui, alors c'est vieux, bon, Munich, même si moi j'étais au stade, je ne l'ai pas entendu, mais aussi Furiani, parce qu'il était dans la tribune,
et
s'est
oui,
effondré, il avait été blessé. Et donc, c'était un supporter de la vieille époque, avant tapis, c'est-à-dire avant que l'équipe joue le haut du tableau. Il était quand même là dans les années 70-80, fin des années 70-80.
Les années 80, je me souviens toujours de cette radio sur la table Amformica de ma maman. Avec mon frère, nous écoutions tous les matchs de l'OM grâce à lui à la radio.
Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces chaînes, ces commentaires.
Donc,
souvent, on se rabattait sur le commentaire radio. Et c'est vrai que c'est lui qui nous a fait vivre des grandes émotions de notre équipe olympienne.
Voilà. Il restera toujours en nous.
Voilà. Ciao, Avi. Et on voulait lui rendre un dernier hommage à l'occasion de cette émission. Voilà, on va attaquer donc avec Franck. Toi, tu voulais nous parler en premier lieu donc de la section féminine de l'OM qui s'est imposée, je crois, ce week-end.
Je voulais dire un mot justement sur notre section féminine de D2. Évidemment que l'OM a battu 5-0 hier Evian Union Gaillard. Ouais. Et à ce moment-là, il est vrai que pour accéder l'année prochaine, ça sera assez difficile, étant donné que Lens, hier, a battu Le Mans et a fait un petit peu la différence sur ce championnat. Lens est en premier de ce championnat avec 29 points, Le Mans les suit avec 22 et l'OM est troisième à 21 points, suivi par Toulouse. Et Saint-Malo à 19 points. Bon, il est évident que le prochain match, l'OM section féminine, sera exempt car on doit jouer contre les Girondines. Bordeaux, en l'occurrence, n'étant plus dans la compétition, il y aura un match exempt pour l'OM. Mais bon, ça va être compliqué de batailler pour la première place pour accéder à la D1 Arkema la saison prochaine.
Parmi l'élite de football, la première division féminine. Voilà, donc on va enchaîner avec la Ligue 2 et une nouvelle défaite pour les joueurs du FC Martigues à l'extérieur. Les Martigues qui retrouvaient leur ancien coach sur le banc du Red Star à Saint-Ouen.
À Saint-Ouen, ouais, tout à fait.
Et qui se sont inclinés 1-0. Les Martigues qui étaient sans entraîneur. Il y avait l'adjoint d'Hakim Alek, malheureusement, qui a appris quelques heures auparavant le décès de son papa et qui est resté en Provence, qui n'a pas fait le déplacement en Île-de-France pour ce match-là. Et pour les joueurs de la Venise provençale, c'est encore une défaite.
Ça reste fortement dommageable dans la mesure où simplement le Red Star, étant 15e avec 26 points, nous aurions souhaité justement que Martigues remporte ce match justement pour se raccrocher sur une position éventuelle de barragiste. Mais bon, je crois que Caen joue
ce soir donc, pour le compte de la 23e journée, voilà, en conclusion de cette 23e journée de Ligue 2.
Étant dernier, nous étant 17e, parlons de Martigues. Alors, j'espère que Caen ne va pas l'emporter, car à ce moment-là, elle reviendrait à la hauteur de Martigues à 18 points, et ça va être très compliqué pour batailler, pour se sauver de cette Ligue 2. Oui.
Ouais, c'est vrai que les Normands du Stade Malherbe de Caen occupent actuellement la dernière place du classement avec 15 points, à 3 points de Martigues, qui est avant-dernier à la 17e place. Et donc... une victoire des Normands replacerait le Stade Malherbe à la même hauteur que le FC Martigues.
Ce serait pratiquement irrémédiable pour notre équipe martigale.
Après, ils jouent à Annecy, qui est une équipe qui joue pour se qualifier en barrage.
Voilà. Et Annecy, qui occupe la 6e place du classement de Ligue 2 et qui est le prochain adversaire du FC Martigues vendredi prochain. Vendredi prochain, le FC Annecy se déplacera à Francis Turquan pour le compte de la 24e journée de Ligue 2.
Voilà. Donc il faut quand même que s'accrocher, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des on l'a déjà dit à cette antenne, hein, Ajaccio
concernant
en particulier,
les problèmes administratifs
qui a
d'Ajaccio,
une difficulté. Si tu peux accrocher, si tu arrives à accrocher la 17e place, tu peux te retrouver barragiste. Barragiste, ça te laisse la possibilité de te maintenir.
Nous le souhaitons de tout cœur.
Mais voilà, ça va être compliqué pour le FC Martigues.
Ouais, ben, on continuera de suivre cette équipe martégale et Saint-Héor jusqu'à la fin de la saison, et en espérant que les résultats positifs soient de retour assez rapidement.
Absolument.
Et peut-être dès ce vendredi avec la réception de Annecy à Francis-Turquin pour la 24e journée de Ligue 2. Voilà, un petit mot avec le National, et malheureusement... une nouvelle défaite pour le FC Aubagne, qui s'est séparé de son coach Maxence Flachez la semaine dernière. Et ça a été, c'est une défaite à domicile au Stade de l'Âtre, 2-1 contre l'équipe de Villefranche, 13e du championnat national. Donc malheureusement, donc avec cette défaite, l'Aubagne Football Club occupe toujours la 7e place avec 27 points.
Par contre, il faudrait peut-être étudier un petit peu ce classement, au-delà des matchs perdus par Aubagne dernièrement.
Qui a entraîné la chute de son entraîneur et le départ de Maxence Flachez.
C'est dommageable, parce que Maxence Flachez étant licencié, bon, je crois qu'il y a Eddy Cario et Sandani qui font l'intérim, en tout cas, qui sont présents sur le banc. Mais bon,
Et d'ailleurs, c'était eux qui assuraient l'intérim sur le banc vendredi soir pour
c'est
la
ça,
réception de Villefranche à domicile.
Alors, il faudrait peut-être un petit peu s'inquiéter. Jusqu'à présent, nous étions sereins dans la mesure où la position reste identique pour Aubagne, 7e position à 27 points. Mais voilà, Dijon 6e, 28 points, etc. Valenciennes 29. Aller vers le haut, ça sera très compliqué. Par contre, il faut voir que derrière, nous, Aubagne, donc à 27 points, Rouen est présent à 26, Sochaux 26 également.
Et Sochaux qui sera le prochain adversaire d'Aubagne, puisque les Aubagnais se déplacent au Stade Bonal vendredi soir à 19h30 pour le compte de la 22e journée de ce championnat national.
Que ces équipes-là, je dirais, il n'y a pas beaucoup d'écart sur les équipes du bas de tableau, donc il faut absolument prendre le maximum de points pour Aubagne.
Oui, il faut se mettre à l'abri. Et d'ailleurs, c'est un peu une question que beaucoup posaient sur le licenciement de Maxence Flachez. Est-ce que c'était le moment de le faire?
Je suis assez déçu et circonspect.
Il doit y avoir sûrement des problèmes internes dont on n'est pas au courant entre l'entraîneur et son vestiaire. Hein, parce que un entraîneur qui est sixième, tu ne le vires pas comme ça.
C'est vrai qu'au niveau du timing... Par rapport à la direction et la présidence du Aubagne, je ne sais pas si c'était vraiment le bon moment pour écarter l'ancien entraîneur de la réserve de l'OM. Hein.
La réponse est dans la question. Hein. Je suis totalement, je dirais, ça m'a complètement déboussolé. Je ne comprenais pas cette démission.
Après,
quoi.
C'est peut-être...
C'est une décision qui a été peut-être difficile à prendre, mais est-ce qu'elle s'imposait réellement? J'en doute fortement, je pense.
Il ne peut que s'agir de problèmes internes entre l'entraîneur et certains joueurs, un vestiaire qui lâche l'entraîneur, comme on dit. Ça, évidemment, on n'a pas les éléments pour le connaître.
Après, peut-être sa communication était mauvaise, le discours ne passait plus auprès des joueurs. Donc,
voilà. C'est possible, mais les résultats n'étaient pas mauvais, parce que ce n'est pas non plus une équipe qui visait la montée.
Bien sûr, mais pour l'instant, quand on regarde de plus près le parcours de cette équipe d'Aubagne en national, c'est loin d'être ridicule. Donc, on a un peu du mal à expliquer cette
mise
à l'écart de Maxence Flachez à ce moment-là de la saison.
Oui.
Je trouve ça plus que dommageable.
C'est un vrai problème dont on ne connaît pas les causes réelles, entre guillemets. Quoi.
Nous en saurons plus par la suite, probablement.
Oui. Ouais. Voilà, on a bouclé cette partie à l'échelon inférieur. On va attaquer avec la Ligue 1 et le gros morceau avec l'Olympique de Marseille qui recevait l'AS Saint-Étienne ce week-end pour la 22e journée. Je vais juste revenir rapidement sur les résultats de cette journée de Ligue 1 avec vendredi, donc Brest et Auxerre qui se sont quitté sur un match nul 2 buts partout. Monaco a atomisé le FC Nantes 7 buts à 1 samedi. L'OM a battu Saint-Etienne 5 à 1. En soirée samedi, PSG est allé gagner sur la pelouse du Stadium à Toulouse 1 but à 0. Hier, Lyon est allé s'imposer 4 buts à 1 sur la pelouse Montpellier. Lens a perdu à domicile face au Racing Club de Strasbourg 2 à 0. Reims a été défait chez lui contre Angers 1 à 0. Nice est allé gagner sur la pelouse du Havre 3 buts à 1. Et enfin, en clôture, hier soir, avec la belle histoire, les hommes de Bruno Genesio, Lille Olympique Sporting Club, est allé gagner sur la pelouse de Rennes. Et première défaite pour les hommes de Habib Bey, 2 à 0, avec un premier but pour Nabil Bentaleb, victime d'un arrêt cardio-respiratoire au mois de juin dernier, qui a rechaussé les crampons, qui a déclaré avoir reçu le feu vert ces jours-ci pour rejouer et qui a ouvert le score après être entré en jeu à 20 minutes de la fin.
Quel scénario fabuleux. Évidemment qu'on peut dire que son entraîneur, évidemment, que Genesio, il a bien vu, il a bien senti. Et quel scénario fabuleux pour ce joueur, cette équipe. C'était pas évident dans les dernières minutes comme cela, mais bon, il a impulsé la victoire à son équipe. Et bravo à lui et bravo à eux.
Voilà. Après, on a vu que l'équipe de Rennes, moi j'ai regardé le match parce qu'il y avait entre autres Ismaël Koné.
Oui, il y a Lilian Brassier aussi.
Oui. Bah, donc, Lilian Brassier qui n'a pas été si mauvais.
Il y avait deux anciens Marseillais qui figuraient dans le 11 de départ de Habib Bey au coup d'envoi.
Une bonne prestation de Brassier.
Brassier a fait un bon match. Koné a été moyen.
Il a été très moyen. Ouais.
Il arrive dans l'équipe, il ne connaît pas ses partenaires.
On sait qu'il a eu très très peu de temps de jeu jusqu'à présent. Et puis bon, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à le voir rebondir à l'étranger. Finalement, le fait de le voir dans un club de Ligue 1 qui est à ce point en difficulté, c'est
ça
surprenant.
Ça restait surprenant, tout à fait. Ouais.
C'était sa première titularisation
avec
le Stade Rennais.
Et il n'a pas été très bon, mais il n'a pas été mauvais non plus. Après, Rennes, tu vois que c'est une équipe où il y a eu pas mal de changements. L'équipe, elle se cherche.
Il y a eu le départ de Jorge Sampaoli quelques semaines et l'arrivée d'Habib Bey sur le banc.
La balade des entraîneurs sur 3 ans, c'est quand même quelque chose.
Habib Bey, j'avais regardé son premier match contre Strasbourg il y a 15 jours.
Il ne faut pas oublier que c'est quand même le troisième entraîneur du Stade Rennais depuis le début de la saison.
Oui,
en effet.
Et tu sens que c'est une équipe en galère parce que contre Strasbourg, ils se font battre, il n'y a rien à dire. Ils marquent à la 89e Ludovic Blas qui met un joli but.
Oui, c'est vrai que la victoire obtenue la semaine dernière face au Racing Club de Strasbourg.
Écrasant, voilà. Et là, face à une belle équipe de Lille, c'est Samba qui les maintient en vie pendant 70 minutes.
On ne va pas mettre ça sur le compte de l'expulsion qu'ils ont eue en fin
Oui, parce que
le jeu. Mais,
Oui, ils étaient. Après, tu fais des fautes parce que tu es battu. Donc, le rouge, il est. C'est le deuxième jaune.
Oui, c'est vrai qu'il y a, Christopher Wu qui prend un carton rouge, voilà. Le défenseur camerounais du Stade Rennais, à un quart d'heure de la fin.
Donc, c'est pas, il n'y a rien à dire sur le carton. Oui, et de toute façon, Lille aurait dû mener depuis longtemps. Oui. Quoi. Voilà.
Et puis, c'est à ce moment-là qu'ils ont concrétisé après cette sortie.
On aurait pu espérer pour l'OM que Rennes tienne le 0-0.
Après, c'est vrai que Lille, c'est quand même une équipe qui a éliminé l'OM en Coupe de France. Et il restait sur deux mauvais résultats avec une défaite face au Havre la semaine dernière en championnat.
Et face à Dunkerque.
Et une élimination en Coupe de France quelques jours auparavant face à une équipe, une formation de Lille 2.
Oui.
Donc, c'est vrai que là, le LOSC devait impérativement se ressaisir, quoi. Essayer de recoller au classement en Ligue 1.
D'ailleurs, ils se repositionnent, comme tu le dis bien, Thierry. Ouais.
Mais on l'évoquera juste après avec le classement cette journée de Ligue 1.
À noter quand même qu'ils jouaient sans Jonathan David, qui était blessé. Oui. Donc c'est quand même leur avant-centre titulaire.
C'est vrai que Bruno Genesio avait titularisé l'attaquant britannique Akpom, arrivé lors du mercato hivernal en provenance de l'Ajax d'Amsterdam.
Fallait bien l'essayer, tout à fait. Ouais. Et faire tourner un petit peu
son
effectif.
Qui a quand même raté un péno, il ne tire pas très bien.
Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un péno.
Mais qui s'est battu jusqu'au bout. Ça, c'est bien un Anglais, ça combat. Mais après, c'est peut-être un peu moins fin techniquement que David. Ouais. Mais ils ont largement mérité leur victoire.
Ouais, voilà. Les Lillois qui connaîtront leur adversaire en Ligue des Champions ce vendredi après la semaine européenne et ces matchs autour de barrage de la Ligue des Champions.
Ben, ça repart déjà demain.
Voilà, avec l'AS Monaco qui s'est incliné 1-0 à domicile la semaine dernière et qui se déplace au Portugal sur la pelouse du Stade de la Luz face au Benfica. Et ce Paris-Brest aussi mercredi avec les joueurs de la capitale avec 3 buts d'avance face à...
Sans dire de bêtises, ça sera peut-être du gâteau, ce Paris-Brest.
Sans faire un mauvais jeu de mots.
Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais.
Voilà. Sur ce, on va attaquer avec l'Olympique de Marseille. Donc, cette éclatante victoire samedi après-midi sur la pelouse du Vélodrome face à la Saint-Étienne. Voilà, donc, un mot sur ce match-là. Il y a eu ce premier but de Léo Ballardi qui a été annulé par l'Avar à la 11e minute. Et après, une belle ouverture du score avec Amine Ouéré. L'attaquant international algérien arrivé en provenance du Stade Rennais lors du mercato hivernal.
Superbe réalisation.
Après sur l'annulation du but de Ballardi, j'ai regardé les images sur Internet, sur le téléphone. On te parle d'un écran, l'arbitre, il faisait, vous savez, les deux bras qui se croisent, là, ça veut dire écran. Il y a bien un truc de Højbjerg qui est devant, mais en Angleterre, c'est jamais sifflé.
Je ne le crois pas.
Et oui, je pense que, à mon avis, il était plutôt bon. Mais bon.
Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même une décision qui a été.
Qui reste plus que critiquable, parce qu'on peut aussi parler.
Assez longue de la part de M. Kiradji, l'arbitre de la rencontre, qui avait déjà dirigé l'OM il y a un mois sur la pelouse du Roazhon Park face au Stade Rennais. Et donc,
on peut parler aussi de l'anticipation du gardien de but de Saint-Étienne qui s'est mal positionné, qui n'a pas anticipé, je dirais, ce centre. C'est plus que discutable cette décision arbitrale. Et bon,
après, c'est un jeune arbitre.
Parce que c'était le premier fait marquant dans cette rencontre qui est intervenu après moins d'un quart d'heure de jeu.
N'oublions pas que c'est un jeune arbitre qui n'a pas la stature des Turpin, le Texier et autres, arbitres internationaux. Et à Rennes.
Oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, en Ligue 1, il est novice. Donc,
c'est le VAR qu'il avait appelé pour lui signaler le pénalty pour Rennes, qu'heureusement Rouli a arrêté. Et là, c'est le VAR qu'il appelle parce que lui avait validé le but.
Il y avait Benoît Bastien qui était dans le camion de l'Avar pour cette rencontre.
Qui est un arbitre beaucoup plus expérimenté.
C'est dans ce sens que je voulais aller, Patrick, absolument. Voilà, tu as bien fait de le préciser.
Suivant qui c'est que tu as au VAR, si c'est Turpin sur le terrain, le VAR, il n'aura pas à intervenir. Si c'est Bastien ou si c'est un arbitre un peu plus expérimenté, ce qui était le cas à Rennes, je crois que c'était Brizard qui était à
la VAR.
À la VAR. Il t'appelle, il te dit il y a péno, tu vas voir, tu siffles péno, alors que voilà. Quoi. Et là, il est allé l'appeler. Moi, j'ai revu les images, franchement.
À plusieurs reprises, voilà, de mon côté également.
Heuberg, il est, évidemment, il se met au milieu pour que gêner le gardien. Mais tous les corners, il y a des trucs comme ça. Quoi.
À ce moment-là, si on ne peut plus, je dirais, se positionner, on ne peut plus gêner les joueurs adverses. Le gardien étant quand même un joueur qu'on ne gêne pas physiquement, plus que cela. Enfin, c'est plus que discutable comme décision.
Voilà. Enfin, après, heureusement qu'on n'a pas eu besoin de ça, qu'on avait de la marge. Mais c'est quand même...
La marge, elle est venue après.
Oui, mais enfin, c'est quand même compliqué. Et c'est vrai que c'est un match qui arrive 0-0 à la mi-temps. Ça peut motiver l'adversaire. Ça peut te mettre un peu de pression. C'est quand même des décisions qui sont problématiques.
Mais l'enchaînement fut bon, voire très bon.
Ouais. Après, voilà. Après, un joli but de Gouiri derrière.
C'est vrai qu'après, bon, il y a eu cette ouverture du score magnifique.
Voilà, oh oui.
Et avec ce magnifique enroulé dans la lucarne de Gauthier Larsonneur, le portier stéphanois.
Et après, bon, en première mi-temps, Saint-Étienne a une occasion, une frappe pas mal que Rouli sort en corner, qui n'était pas extraordinaire, hein, mais enfin, c'était un bon arrêt. Sinon, ils n'ont rien.
C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions côté stéphanois. Et donc, c'est vrai que le gardien argentin de l'Olympique de Marseille est assez peu sollicité lors de cette première période.
Les occasions stéphanoises sont à la fin quand tu mènes 4-0, puis 5-0.
Après, il y a eu ce but de l'attaquant belge, Lucas Tassin, côté stéphanois.
Oui, content, mais on peut noter les quelques velléités offensives des stéphanois quand même en début de match. Malgré ce, notre défense et notre positionnement du milieu également a fait en sorte d'annihiler toute velléité offensive de l'adversaire. Et au-delà du fait qu'en fin de match, évidemment, il y a eu ce but et quelques occasions, je dirais, importantes du côté stéphanois, qu'heureusement, la barre transversale et Rouli étaient présents.
Voilà.
Et dans l'ensemble, la défense marseillaise n'a pas été trop mise en difficulté lors de cette rencontre.
Elle a maîtrisé,
face à une équipe stéphanoise assez inoffensive.
Oui. Alors, la question est-ce que c'est que les Stéphanois, c'est vraiment faible ? Et moi, franchement...
C'est vrai que cette équipe stéphanoise, avant le coup d'envoi, quand je regarde le classement aujourd'hui, elle est en position de barragiste. Elle occupe la 16e place de la Ligue 1. Donc,
On les a battus 2-0 chez eux. On leur a mis
c'est
4...
vrai que c'était la troisième confrontation entre l'OM et Saint-Etienne.
Plus de 9 buts en 3...
Quand on fait le décompte...
11 buts en 3
confrontations. Ouais.
Donc, 2-0 en championnat, où on peut en mettre un ou deux de plus facile. 4-0 en coupe,
France,
où ils n'existent pas. Et 5-1, où le but, il le marque à la fin quand tu mènes 5-0, tu lâches un peu, où tu peux en mettre facile 2-3 de plus.
Hein.
Parce qu'il y a eu quelques très belles actions, où tu as été un poteau de Murillo, une action de Dedic magnifique, où le gardien arrête. Le meilleur stéphanois, ça a été Larsonneur, le gardien de but. Quoi. Voilà.
C'est
quand même symptomatique, mais c'était quand même une équipe bien faible.
C'est une équipe qui a changé d'entraîneur aussi, puisque il me semble que lors de la dernière confrontation en Coupe de France, juste avant la trêve,
il était présent dans les tribunes.
Il y avait Eric Horneland, le nouveau coach norvégien, qui était présent en tribune à Geoffroy Guichard, et c'était encore... je crois que c'était l'adjoint d'Olivier Dalloglio qui a assuré l'intérim jour-là.
C'était l'entraîneur du centre de formation. Mais je pense que...
Que cette équipe stéphanoise, elle est en grosse difficulté et ça va être très difficile pour...
Ce que j'ai du mal à comprendre...
Pour réussir à se maintenir en Ligue 1 cette année.
Parce que là, on va en dire un petit mot, mais rapide, avec les problèmes avec DAZN, où tu as des problèmes financiers, tu as des clubs qui se sont affaublis en vendant.
C'est vrai que il y a de nouveau cette polémique concernant la crise des droits TV qui a ressurgi.
En attendant la redistribution de l'argent promis, à la Ligue par les médias.
Après, quand tu vois Montpellier, ils vendent leurs 3 attaquants, tu vois Reims qui vend ses 2 meilleurs joueurs, même Lens qui a vendu un nombre incalculable de joueurs importants. Mais les mecs, ils stabilisent. Mais
il y a encore le Racing Club de Lens qui est quand même une équipe qui est dans la première partie de tableau, contrairement aux trois autres équipes que tu viens de citer, Patrick,
Mais...
qui luttent quasiment pour assurer leur place en Ligue 1 la saison prochaine.
Ouais. Voilà, malgré son revers face à Strasbourg 2-0.
Ils ne vont pas rester longtemps dans les places.
Mais c'est quand même une équipe qui occupe la 8e place. Donc, dans la première partie de tableau de ce championnat.
Ils ont quand même perdu 4 joueurs très importants et tu sens que ça y est, c'est pas ça, quoi.
Donc c'est une question, est-ce que la stabilité budgétaire passe avant toute chose?
C'est ce que je voulais dire en parlant de Saint-Étienne. Ils ont été rachetés l'été dernier. C'est Kilmer Venture Sport, une société américano-canadienne. Le président, c'est officiellement l'ancien vice-président d'Arsenal, Ivan Gazidis, c'est quelqu'un qui connaît le foot. Tu regardes le mercato, ils ont pris Cardona, celui qui a donné la balle de but au Vélodrome.
Oui, Irvine Cardona,
qui est un bon joueur de club. Mais
qui était un peu en perdition ces derniers mois, ces dernières semaines en Espagne.
Oui, à l'Espagnol Barcelone où il ne jouait pas. C'est pas un gros joueur, c'est un solide joueur.
Mais c'est vrai que là, la nouvelle direction stéphanoise a tenté de le relancer lors de ce mercato pour essayer d'assurer éventuellement un maintien.
Mercato, ils prennent deux joueurs, un jeune qui vient des pays scandinaves, je ne connais pas, et ils vendent donc Cafaro au Paris FC, qui est le mec Cardona a remplacé, un attaquant de côté, qui est un joueur bon remplaçant de Ligue 1.
C'est quand même un joueur qui a fait une belle saison en Ligue 2
l'année dernière. Et ils ont vendu surtout à Mougou, là, leur meilleur joueur, 15 millions à Chelsea.
Oui, c'est vrai que c'est un départ qui leur a fait mal. Et
voilà, il te manque au milieu.
C'est quand même un grand espoir du football français.
Et quand tu regardes, ils ont plus vendu que ce qu'ils ont acheté. Or, théoriquement, tu as un investisseur qui vient d'arriver.
Elle est là, la problématique, finalement, d'optimiser son équipe.
Je comprends Montpellier ou Reims, ou Le Havre, qui sont le couteau sur la gorge. Saint-Étienne, il y a quand même un stade que tu remplis 38-40 000.
C'est vrai que quand on voit la capacité du stade Geoffroy Guichard...
Et tu as quand même des mecs qui viennent d'arriver comme investisseurs. On peut dire que Rennes, qui était en difficulté, ils ont mis la main au porte-monnaie pour renforcer leur équipe et pour essayer de se relancer. Là, tu regardes, l'OM a fait les efforts. Après, l'OM ou Monaco n'ont pas les mêmes budgets.
Oui.
Mais Saint-Étienne, c'est un peu décevant.
Budget et ambition. Parlons d'ambition, parce que l'ambition de Saint-Étienne étant de ne pas être relégué en Ligue 2. Quoi. Et donc, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait un recrutement en ce sens.
Voilà,
ce qui n'est pas le cas en ce qui nous concerne, en tout cas.
Et c'est vrai que tu as des équipes que tu sens déjà condamnées, mais Saint-Étienne, ils sont 16e d'un barragiste. Attention, tu te prends un Metz, un Paris FC, un Dunkerque de Ligue 2, tu n'as pas gagné d'avance, hein, parce que c'est costaud. Hein.
Attention à la chute, parce que là, quand on regarde le classement, il y a Le Havre qui est juste derrière, à la 17e place, avec 17 points, et Montpellier qui ferme la marche en position de lanterne rouge avec 15 points. En sachant qu'il reste encore 12 journées avant la fin de ce championnat, pour les Stéphanois, ça va être compliqué.
Tout va aller trop vite, là, à ce moment-là, évidemment.
À partir du moment où on rentre dans la dernière ligne droite de cette Ligue 1, chaque point compte, match est décisif pour un éventuel maintien ou pour aller chercher une place en Europe.
Parce qu'on le disait tout à l'heure en parlant de Martigues en Ligue 2, tu as les équipes qui se battent. Et en Ligue 1, tu as Angers. Alors, c'est pas terrible, Angers. Mais c'est costaud, ils sont allés gagner à Reims.
C'est
mecs qui se battent, quoi. Et eux, ils sont venus depuis le début, ils sont dans une logique de... Bon, ils cherchent le maintien.
Absolument,
quoi.
Mais...
Ils savent pourquoi ils sont là.
C'est vrai que cette équipe angevine, on les a joués la semaine dernière, l'OM.
C'était pas facile. Hein,
c'est vrai qu'on a quand même gagné 2-0, mais c'est quand même une équipe qui nous a posé des problèmes. Et on voit que... Une semaine après, ils ont bien réagi en allant vont chercher cette victoire sur la pelouse du stade de l'Aune à Reims.
Ils ont tout à fait conscience de leur statut et du combat collectif pour le maintien. Hein.
Voilà, et là, ma foi, c'est... Et eux, j'ai regardé ce matin, je lisais l'équipe, ils gagnent 1-0 à Reims. Le mec qui marque, c'est El Melali, c'est celui qui avait marqué sur coup franc au Vélodrome, qui avait égalisé un partout.
Lors du match nul...
au Vélodrome au mois d'octobre.
Au mois d'octobre dernier, là.
C'est le même, c'est le deuxième coup franc direct qui met pleine lucarne, super coup franc, et ça fait 3 points. Pour le maintien, c'est enfin. Après, c'est le problème de Saint-Étienne et des autres. Hein. C'est pas le nom.
C'est vrai que tu évoquais cette équipe angevine. Là, aujourd'hui, elle est 11e au classement avec 26 points. Donc, il y a quand même un petit peu de marge sur les équipes qui luttent pour le maintien.
Oui, Chéri, mais tout va très vite. C'est... Il est évident que les positions de barragistes sont très aléatoires et de match à l'autre. Sur les
Après, on sait
matchs,
que ce qui est important, c'est essayer d'enchaîner une série dans ce championnat. Oui. Donc, ça va vite. Dès qu'on perd un match, après, si on arrive à relever la tête et enchaîner plusieurs résultats positifs, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre assez rapidement.
Ça, c'est sûr. Mais quand même, ils ont 8 points sur le barragiste, Saint-Étienne. Donc,
ça laisse quand même un matelas plutôt marge, confortable.
Voilà. Parce que comme le combat est fort en tête de championnat pour les places européennes, hormis l'équipe non française qui... Enfin, l'équipe qui est intouchable. Parce
oui, le Paris Saint-Germain qui est leader avec 10 points d'avance sur l'OM.
Mais en fait, après, quand tu regardes l'effectif, le banc de touche, en fait,
et les salaires. Les catégories différentes.
Tu es au-dessus, quoi. Mais...
Après, c'est vrai que cette équipe parisienne, elle a quand même un calendrier assez chargé sur cette fin de saison. Surtout, on sait qu'ils sont encore engagés sur toutes les compétitions. Hein. La Ligue 1, la Ligue des Champions et la Coupe de France avec un match la semaine prochaine contre Saint-Brieuc.
À Saint-Brieuc. Aussi.
Voilà. Voilà.
Bon. Mais après, ils ont la chance d'avoir des bons tirages. Quand tu regardes un coup, il n'y a que les amateurs. Saint-Brieuc, c'est National 2. Ouais.
Après avoir éliminé Le Mans au tour précédent.
Voilà, qui est un club de National. Voilà, donc ils ont des petites équipes. En Ligue des Champions, ils ont le bol de Thierry Brest qu'ils connaissent bien. Tu aurais pu te prendre du beaucoup plus lourd, ne serait-ce
mais
que
après,
Benfica.
Mais après, au stade des huitièmes de finale, on sait qu'il y a
Liverpool ou Barcelone.
Il y aura Liverpool ou Barcelone qui se présentera devant le PSG. Donc, c'est quand même des adversaires d'un autre calibre que le stade brestois, sans faire injure à cette équipe d'Éric Roy.
Qu'on aime beaucoup et qui est très méritante. C'est quand
qui
même
occupe actuellement la 9e place de Ligue 1 avec 32 points.
Voilà. Oui, qui se remettent un petit peu de leurs émotions.
Parce que, Paris, tu regardes l'équipe qui a joué à Toulouse, il a fait tourner.
Il y avait beaucoup de remplaçants.
Mais tu as les moyens quand tu es
remplaçant. Ils ont un effectif qualitatif et quantitatif qui leur permet de jouer sur tous les tableaux cette année.
Les remplaçants, c'était Lucas Hernandez, Kang Ingli, Fabian Ruiz, Kvaratskhelia.
Voilà, il y a un équilibre dans cette équipe.
Beraldo,
Enrique.
C'est quand même du...
Du lourd. Il n'y a quand même que des internationaux.
Étrangers
et français.
Et si même Dembélé devient grand avant-centre, on aura tout vu. ils peuvent arriver à tout. Voilà. J'en dirai pas plus.
Après, pour nous, on a fait...
Pour revenir à l'OM et cette belle victoire face à la Saint-Étienne.
Heureusement qu'on a gagné parce que les autres derrière ont gagné aussi.
Voilà. Oui. Vrai que sur cette journée, avec la victoire de l'AS Monaco qui a pulvérisé le FC Nantes, que l'OM jouera dans 15 jours au Vélodrome. Il y a l'OGC Nice aussi qui nous a battu il y a quelques semaines, qui a enchaîné avec une victoire sur la pelouse du Stade Océane face au Havre, 3-1 pour les joueurs de Francaise. On voit que Lille s'est imposé aussi, donc ça revient fort derrière l'OM. Donc il est impératif de prendre des points face à cette formation stéphanoise.
Absolument, parce que Nice et Monaco sont à 6 points de nous, donc à 40 points. Lille revient bien derrière, à 38. Évidemment que tout est jouable pour les places européennes. Maintenant, gardons notre statut de second.
Et après, si on se projette sur la prochaine journée aussi, on sait qu'il y a l'AS Monaco qui va jouer un match de Coupe d'Europe demain soir face au Benfica et qui jouera face à Lille le week-end prochain. Donc, cette confrontation, elle aura quand même quelque chose d'important.
Il y en a forcément un des deux qui va lâcher des points, si ce n'est les deux, s'ils font match nul. Quoi.
Voilà. C'est... Il y a un Lyon-Paris-Saint-Germain aussi en conclusion de cette 23e journée, dimanche prochain. Voilà, le PSG qui jouera son match retour face à Brest mercredi soir au Parc.
C'est, d'ailleurs, on en parlait samedi au stade avec les collègues, hein, puisque... On boit un coup, après on débrief. Et oui, on attend que la circulation se dégage pour rentrer à la maison.
C'est les habitudes, les habitudes à l'occasion de chaque rencontre au Vélodrome.
La circulation, c'est important.
Oui, c'est important, tu as raison. Et on va à Auxerre, pas simple. Hein,
samedi soir à 21h05, prochain rendez-vous pour les joueurs de Roberto De Zerbi.
Et après, on reçoit Nantes et on reçoit Lens. Et
là, en sachant qu'il y a une confrontation qui nous attend au Parc des Princes dans un mois, le 16 mars.
Nous en parlions, on va au Parc. Et quand tu regardes le calendrier, l'OM a 3 matchs difficiles. Tu vas au Parc, 3 semaines après ou 15 jours après, tu vas à Monaco.
Il y a le match retour face à l'AS Monaco, stade Louis II.
Et après, 2 ou 3 semaines après, tu vas à Lille. 3 semaines après, je crois, tu vas à Lille.
Donc, il faut optimiser le nombre de points matchs, au maximum, gagner tous les matchs.
Sachant que Monaco...
Et là, on arrive dans le sprint final à ce moment de la saison. Donc, c'est des matchs qui vont valoir très, très cher pour cette équipe marseillaise.
Voilà. Parce qu'il faut au moins assurer le podium, parce que les 3 premières places sont qualificatifs en Ligue des Champions.
Lille, Monaco et le Paris Saint-Germain ont encore un calendrier
en Europe.
Et cela va impacter toutes ces équipes encore qualifiées dans d'autres compétitions, ce qui n'est pas notre cas, malheureusement.
C'est vrai que les joueurs marseillais, en étant éliminés en Coupe de France, il ne reste plus que la Ligue 1 pour... assurer cette qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Donc,
avec l'avantage de cet inconvénient, c'est que ça te permet de travailler toute la semaine.
Plus sereinement.
Voilà, et tu le vois quand tu regardes le match de Saint-Étienne, comme les joueurs se trouvent, les automatismes, les mecs qui commencent à intégrer le style de jeu. Et là, tu te dis, ben, tu travailles. Et hier soir, donc, je regardais Rennes-Lille. Lille, je pense que la Ligue des Champions leur a donné beaucoup de confiance. Tu sens que les mecs sont costauds dans la tête, ils doutent pas. Mais quand même, ça fait
Lille,
le sacré...
Lille, ça fait quelques années qu'on a une équipe qui est homogène.
Et on voit que ça bosse bien du côté de...
Ça bosse bien, ça bosse bien, ça travaille
le
bien.
Le président Létan qui a beaucoup fait parler avec cette fameuse altercation au Vélodrome lors de la rencontre de Coupe de France. Mais bon...
Après, il y en aura d'autres. Après, Létan, c'est un vieux requin. N'oublions pas qu'il a
été... On connaît son parcours, on connaît
Paris
son expérience.
Au Paris Saint-Germain, à Rennes, enfin, je crois qu'il a débuté à Rennes, enfin... C'est un mec qui a comme dirigeant. Hein.
Il a pas mal bourlingué dans sa carrière de...
Et donc, c'est un bon requin, très malin dans la com et tout, qui a des réseaux. Et n'empêche qu'il a bâti une sacrée équipe. Quand tu sais qu'il a repris après l'escroc qui est à Bordeaux...
Gérard Lopez, pas le citer.
Pour pas le citer. Il a sauvé l'équipe qui était à 2 doigts de l'explosion. Et il a monté un gros truc, une grosse équipe, et c'est costaud. Hein. Et voilà. C'est costaud sans avoir des noms extraordinaires.
Mais justement, il a su créer cette dynamique en quelques années. Et justement, là, on voit les beaux jours de Lille qui commencent à apparaître plus que cela. Et en ce qui nous concerne, comme tu disais, on commence à avoir un travail qui porte ses fruits parce que je vois une unanimité au niveau joueur, en tout cas, leur communication et ce qu'ils montrent sur le terrain. Nous le voyons que le discours de Zerbi, exactement, ils arrivent... Absolument, De Zerbi est fier de son équipe. Et il y a de quoi à suivre le schéma et la tactique, justement, incitée par cet entraîneur. Et je vois que tout le monde est unanime dans ce jeu-là. Et ça commence à porter ses fruits plus que ce qu'il n'en faut. Et continuons.
Voilà, et c'est vrai que tu commences à avoir une équipe qui est costaud, qui est dure à jouer, et qui est où les mecs, ils apprennent. Et si l'année prochaine, tu arrives, et si tu es en Ligue des Champions, tu conserveras tes joueurs. Tu as déjà y compris tes remplaçants, c'est-à-dire que ton milieu, Bennacer, Højbjerg, Rabiot, de Rongier, Kondogbia, et même le petit Nadir qui fait ses matchs, tu as de quoi tenir la route.
Hein. Et oui, le petit Nadir qui est rentré en cours de jeu samedi.
Qui a fait son match, qui a été bon, qui fait des rentrées où il montre que...
Qui monte en puissance, tout
voilà,
à fait.
Il n'est pas ridicule dans cette équipe et qu'il est intéressant, quoi. Donc c'est bien. Ça me, parce que l'année prochaine...
Oui, il a joué un peu plus de 20 minutes samedi face à Saint-Etienne.
Avec la Ligue des Champions, il faudra tourner. Il faudra tourner parce que tu ne peux pas jouer 60 matchs dans l'année. Ce n'est pas possible, il faudra tourner. Et là, tu commences à avoir un groupe qui prend du poids. Quand tu fais rentrer des gars, tu as des gars solides. Enfin, donc, c'est une bonne chose.
Après, sur la prochaine rencontre, face à la GOCR samedi soir au stade de l'Abbé Deschamps, on sait que Leonardo Balerdi, qui a reçu un avertissement la semaine dernière en Angers, sera suspendu. Donc,
une
absence plutôt facile à compenser pour vous
Pas forcément.
On sait que bon, Roberto De Zerbi a reconduit le même 11 qui s'est imposé la semaine dernière sur la pelouse d'Angers. Ouais. Donc, il va falloir faire sans Léo Balerdi, sans le capitaine, j'ai envie de dire, lors de ce déplacement dans Lyon, samedi.
Alors, il est vrai que le débat, je dirais, pourrait être lancé là-dessus. Est-ce qu'on va rester sur une idée de trois joueurs derrière, Axio, voilà. Parce
après, on sait
que Murillo, peut-être Condombia, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, on partira quatre, ou je ne sais pas. Ça reste, je suis
et
un
après,
peu
un petit mot concernant l'international italien, italo-brésilien, Luis Felipe Ramos, qui est arrivé lors de ce mercato. On a vu qu'il n'était pas sur la feuille de match samedi lors de la réception de Saint-Etienne au Vélodrome. Donc, visiblement, un petit souci encore de physique qui l'empêche d'être dans le groupe.
Peut-être, ou alors Murillo tient bien son rôle côté droit avec Enrique. Mais il y a une chose est sûre, c'est qu'il va falloir qu'il entre peut-être dans le jeu. Et, parce que,
là, on sait qu'il reste encore 12 matchs, mais bon, je pose la question à Patrick Franck. Est-ce que Luis Felipe Ramos, c'est un joueur sur lequel on peut compter pour la fin de saison ?
Sur ce qui se dit autour, moi, on en a parlé samedi. Il n'a plus joué depuis juillet en Arabie Saoudite.
C'est vrai qu'on sait qu'il a très peu joué lors de son passage
l'Arabie
à l'Ittihad.
Ils ont un nombre d'étrangers maxi et donc ils l'ont sorti.
On l'avait déjà évoqué le mois dernier au moment de son arrivée.
Eux, ils s'en foutent de payer le mec pour rester à la maison. Et bon, voilà. Et donc, il était à court de rythme. Et là, il aurait eu un petit pépin au mollet qui peut s'expliquer quand tu es resté plusieurs mois sans jouer, tu as des douleurs, ce qui était arrivé à Rongier après sa grave blessure, l'inquiétude qu'on a sur Pogba, est-ce que le mec qui après deux ans sans jouer va reprendre sans avoir des petits claquages, des contractures. Donc il est possible qu'il ait eu un problème. Moi j'aurais quand même aimé qu'il le fasse rentrer une ou deux fois à 20 minutes de la fin. Alors à Angers, tu mènes 2-0. Tu mènes que 2-0. C'est un peu dur de faire sortir ton capitaine défenseur central.
Ouais, mais vous ne pensez pas que c'est plutôt un contexte favorable, ce match à l'extérieur face au Sco d'Angers?
Ça aurait pu, justement. Ça aurait été une occasion de le voir à l'œuvre, quelques minutes en tout cas. Maintenant, il est vrai que nous avons pris un autre joueur, le Bosnien, Didik. J'ai du mal, mais je vais y arriver. Ses qualités sont au-delà de ce que nous attendions. Il peut jouer côté gauche, côté droit, évidemment, peut-être. Axial, très offensif. Alors peut-être.
C'est vrai que là, il a fait plutôt une bonne entrée, que ce soit Angers ou face à Saint-Etienne, Dedic.
Malgré une petite défaillance, je dirais, derrière, je ne le trouve pas si rapide que cela. Et je dirais, par rapport à Merlin, il est aussi offensif, peut-être plus performant devant. Mais derrière, je ne pense pas qu'il soit une super défenseur. Enfin, nous le verrons.
Pour vous, il y a match entre Quentin Merlin et Amar Dedic, le latéral bosnien recruté cet hiver du Red Bull Salzbourg.
Il y a un article intéressant dans l'équipe de ce matin. C'est Mathieu Grégoire qui fait l'article.
Le correspondant à Marseille.
Où il explique que tu as trois personnes à gauche. Puisque tu as aussi Ulysse Garcia.
Ouais. Et justement, j'allais y venir par rapport aux joueurs qui étaient sur le banc et qui ne sont pas rentrés samedi. Je vois, il y a le gardien de l'Ange, Ulysse Garcia, Paul Lirola et Nil Mopé. Donc, pour compenser l'absence de Balerdi samedi prochain à Auxerre, quid de Roberto De Zerbi?
À mon avis, ça se joue entre Condogbia.
Est-ce qu'on fait redescendre Condombia
Ou alors Luis Felipe. Est-ce qu'il
solution la plus fiable, je vous pensais que c'est plutôt Geoffrey Condombia, en sachant qu'il revient de blessure, il est déjà rentré.
Pas essayé
en théorie, Luis Felipe, c'est le remplaçant. Ouais. Voilà. Sauf qu'il n'a pas encore joué.
C'est vrai qu'un Geoffrey Gondolbia, il apporte plus de garanties que Luis Felipe, qu'on n'a pas encore vu à l'œuvre.
Voilà, et Luis Felipe, si tu regardes le mec qui jouait à la Lazio Rome ou même au Betis, avant de partir en Arabie Saoudite, tous les jours, il a sa place.
Mais ça, c'était avant.
Mais voilà, maintenant, ça fait présent, un an d'Arabie Saoudite, 6 mois sans jouer. Et Gondogbia, il connaît les autres parce qu'il a joué avec. Alors,
bien sûr, il y a des automatismes qui sont créés, donc il y a peut-être plus de facilité.
Voilà,
pour...
et puis, il est français, il parle français. On sait qu'Hoiberg, Rabiot, Bennacer, Rongier, c'est francophone. Donc, s'il se parle, c'est peut-être mieux qu'on dogue bien. L'autre, il est
probablement, oui.
Italo-brésilien.
Il y a aussi une possibilité.
Parce que c'est vrai que cette équipe auxerroise, c'est quand même une équipe qui nous a battu lors du match aller au mois de novembre dernier. 3-1, on se rappelle tous. Et,
on se rappelle
surtout des déclarations de Roberto De Zerbi après cette défaite et la menace de départ.
Oui.
Donc c'est vrai que cette équipe auxerroise, elle reste sur un match nul à Brest vendredi soir 2-2 avec un doublé de Gaëtan Perrin, le joueur formé à Lyon. Donc c'est une équipe qu'il va falloir craindre pour l'OM samedi ou
craindre.
Un match plutôt à la portée des joueurs de l'OM.
On n'a personne à craindre, seulement il faut juste optimiser notre équipe. Alors peut-être qu'un milieu de terrain serait le bienvenu pour jouer dans l'axe chez nous. On a multitude de talents à ce niveau-là, de la possibilité, on parlait de Condombia, peut-être Holberg, je ne sais pas, qui pourrait jouer dans l'axe également. Alors bon, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à De Zerbi, mais faudra-t-il trouver...
Après, il y aura 8 jours pour récupérer, puisque la réception de Nantes, ce sera le dimanche qui suit. Ouais.
Mais le truc, c'est que la force de l'OM à l'extérieur, je rappelle qu'on est la meilleure équipe du championnat à l'extérieur, on est même sur les grands championnats l'équipe qui a pris le plus de points à l'extérieur. Hein.
Par contre, au niveau du parcours à domicile, on ne peut pas en dire autant.
On ne peut pas en dire autant. Mais c'est aussi
mais bon, ça,
que
c'est,
tu
c'est juste une parenthèse.
Ça tend à s'améliorer.
Sur une grosse défense. Et c'est quand même ton patron de défense qui va être absent.
Et
donc, il faut
et ton capitaine
et ton
aussi.
Capitaine. Alors donc, après, capitaine, je pense que Hoiberg, Rabiot...
C'est pas un souci pour
Hoiberg,
le brassard.
C'est le capitaine du Danemark. Rabiot était capitaine à la Juve. Tu as Rongier, même s'il
y a beaucoup de joueurs qui peuvent prendre le brassard.
Le brassard, c'est pas
c'est
un problème.
C'est surtout les positions sur
Par
le terrain.
Par contre, commander ta c'est défense, ça. C'est ça. Alors...
C'est au niveau de la configuration et du positionnement que ça m'intéresse de voir comment Roberto De Zerbi va articuler son équipe pour ce déplacement.
Moi, je pense qu'il restera en défense à 3 parce qu'on joue comme ça depuis le début. Mmh. Et que là, tu as tes deux couloirs qui font mal sur les côtés. Voilà. Luis Enrique a encore été bon contre Saint-Etienne.
Toujours dans la position de piston.
Voilà, il défend bien, il attaque bien, il dribble, il crée des situations.
Très énergivore, son rôle.
Fait une très bonne saison. Donc, tu vas garder. Rob a fait une rentrée sympathique contre Saint-Etienne, mais pas au point de concurrencer. Ouais. Tiens Guiri en pointe et tiens Greenwood.
Bon, on a vu qu'il
offensif,
est,
oui,
il est resté un petit quart d'heure avec le temps additionnel.
On a
vu qu'il est rentré à 10 minutes de la fin. Donc,
Je pense qu'il a fait rentrer pour lui donner un peu le temps de jeu, pour l'encourager. Voilà.
Bon, on a vu Mopé
mais
sur
c'est
le
vrai
match
que
précédent.
Depuis le changement de système de Roberto De Zerbi, c'est quand même l'un des joueurs qui est le grand perdant du nouveau schéma tactique mis en place par le technicien italien.
C'est sûr qu'à l'extérieur, Rabiot t'amène un travail défensif à la récupération et même dans
et
la
qualité. Et surtout offensif également.
Voilà, parce que le jeu de tête, les qualités
et c'est vrai
qu'en passe.
Plus maintenant, pour le milieu international français, il arrive à se muer en buteur, puisqu'on l'a vu encore.
Il a encore mis un but.
Buteur face à Saint-Etienne. Et là, il enchaîne depuis plusieurs rencontres.
Donc je pense, moi, qu'il ne touchera pas son système. Et il remplacera. Il ne peut pas mettre Cornelius ou Murillo central. Les mecs ne sont pas, des patrons de défense.
Bah oui, Patrick.
Donc, ça peut être Kondogbia.
Ça
peut être Rongier, qu'il avait fait avec Sampaoli, de jouer en défense centrale. Je me rappelle d'un match de coupe contre PSG qu'on avait gagné. Où
c'est vrai que l'apport de Valentin Rongier à ce poste-là, ça peut être éventuellement une solution.
Qualité de relance et tout.
C'est ce que nous attendons à ce poste-là également. La justesse technique dans la relance et le positionnement en lui-même ne suffira pas. Il faut de la justesse.
Ça peut être Luis Felipe, mais j'y crois pas trop. Moi, je pense plutôt Kondogbia ou Rongier.
Ah, parce que le lancer comme ça...
Même s'il est de retour dans le groupe, le lancer en tant que titulaire au coup d'envoi...
Tu le lances, tu sais qu'il a une heure dans les pattes sans problème, quitte à le remplacer. Après, en fonction du résultat, tu peux... Mais changer ton organisation de jeu, alors que tu es très bon à l'extérieur dans ton système, je ne pense pas qu'il le fera. Parce que sur un match, en plus, Auxerre, attention, c'est une équipe qui a les attaquants. Tu parlais de Gaëtan Perrin.
Oui,
puisque... Ahmed Traoré, le jeune, qui est bon également. Sinayoko, c'est puissant. Oh,
c'est vif et physique.
Voilà,
tu n'as
pas intérêt à les laisser prendre la tête. Et parce qu'après, défensivement, ils s'accrochent.
Oui, c'est vrai, je parlais de Gaëtan Perrin, puisque c'est lui qui a réalisé un doublé vendredi soir sur la pelouse de Brest. Et puis bon, c'est vrai que c'est le joueur qui a les meilleures stats depuis le début.
Ah oui, c'est un,
depuis
c'est,
plusieurs semaines avec cette équipe auxerroise.
Voilà, c'est le deuxième passeur du championnat, donc c'est quand même un joueur intéressant. Donc, on verra ce que fait De Zerbi, il sait mieux que nous, mais je pense qu'il va quand même, il mettra, à mon avis, plutôt Kondogbia, voilà. Parce que l'expérience, l'ancienneté, il connaît les autres. Luis Felipe, ça m'étonnerait.
Je pense que c'est la meilleure solution pour le relancer. Là.
Quitte à le faire rentrer dans les 20 dernières minutes, Luis Felipe.
Parce que Luis Felipe, tu peux le rendre super sur une première impression. Autant tu peux lui couper l'herbe sous le pied.
Oui, non,
sur
mais...
cette première apparition en tant que titulaire, j'ai peur que ce soit trop...
Après, c'est un joueur d'expérience. Ouais. Même s'il se rate un peu, c'est un mec capable de... C'est pas un jeune qui va mal vivre les sifflets, c'est à l'extérieur en plus. Mais tu prends un risque. Je ne pense pas qu'il le prendra parce qu'il sait que les trois points, parce qu'après tu reçois Nantes et Lens avant d'aller à Paris.
Et ouais.
Donc tu as intérêt à rentrer les points.
Voilà. Tu parles des stats justement, le but étant toujours de gagner et de marquer des buts, mais aussi d'optimiser notre possession qui est quand même un point fort que nous développons. Et en tout cas, quid du ballon, nous le possédons, autant l'utiliser de la meilleure des manières, voilà, ça évitera l'adversaire.
Et sur ce que tu dis, Franck, tu as raison, et Kondogbia ou Rongier, c'est une qualité technique, c'est des milieux de terrain. Hein.
Il faut que ça parte du
bas. Voilà, c'est une qualité technique qui pour toi est importante, parce que Cornelius et Morillo dans la relance, c'est un peu moins quand même.
Hein. Même si Cornelius a fait un match pas mal face à Saint-Etienne, mais c'est quand même pas d'une justesse fabuleuse. Hein. Il nous faut notre niveau. Quoi.
Mais c'est vrai que pour s'imposer sur la pelouse de Auxerre, c'est quand même un match important, surtout que sur cette journée, il y a quand même des confrontations en direct.
Oui, il y a Lyon-Paris, Lille-Monaco.
Voilà, il y a Lyon-Paris-Saint-Germain dimanche soir en clôture et Lille-Monaco. Monaco. Et il y a aussi cette équipe de Nice qui recevra Montpellier qui est malheureusement mal en point et dernier du classement.
Justement, Nice et Monaco sont là derrière nous, ils ne sont pas loin. Alors autant, je dirais, ne pas les laisser revenir à notre portée.
Ouais.
Et donc, je pense qu'il ne prendra pas de risque de Zerbi. Il va assurer. Mais je pense qu'on a un groupe après... On a quand même des leaders, des joueurs d'expérience. On a une équipe. Rappelons-nous le match à Rennes où tu prends un péno. Bon, alors Rouli l'arrête, très bien. Mais tu prends un péno injuste.
Ouais.
Tu prends un but sur une occasion. Voilà, comme ça, c'est des choses qui arrivent. Et tu trembles pas, tu reprends le contrôle, tu as la maîtrise et tu marques et tu égalises et tu gagnes. Il faut...
Après, c'est des faits de jeu.
Oui, c'est des faits de jeu.
Laissons les justes de côté, relativisons et prenons justement le bon.
Mais c'est sûr qu'on le voit par rapport à certaines équipes. Je pense à Nantes qui a explosé à Monaco. Alors, ils prennent un rouge à la 8e.
Ouais.
Bon, ça c'est dur. Pas. Mais en fait, dès que Monaco a mis le pied, il était à 3-1, ils ont lâché. Toi, entre Rabiot, Højbjerg, Benacer, Rongier, des mecs comme ça, tu lâches pas. Tu es costaud et donc c'est
vrai que même en étant réduit aussi rapidement au score, on voit rarement des équipes exploser de la sorte en Ligue 1, a pu faire avec le match catastrophique d'Anthony Lopez, l'ancien portier lyonnais qui a rejoint le FC Nantes lors du mercato hivernal.
Ah, j'ai regardé les buts, il y en a 3 pour lui. Hein.
Oui.
Là, il s'est écroulé totalement.
C'est pour ça que je dis que vraiment, c'était une prestation calamiteuse du gardien portugais.
Hein, c'est-à-dire le but de l'égalisation, le but du 2-1 avant la mi-temps, où il n'est pas bon, il ne ferme pas son poteau, il se prend des buts. Après, ça arrive. Mais l'équipe a beaucoup lâché. Comme Boari, il a dû gueuler dans les vestiaires.
Ah ben, le connaissant le personnage, j'ose imaginer le discours du technicien Kanak dans le vestiaire du FC Nantes.
Ils doivent avoir les oreilles comme Fréti encore, j'imagine.
Voilà. Donc, nous verrons bien, mais c'est sûr que le prochain week-end sera intéressant. Ça sera important.
Vous parlez de matchs importants, Patrick. Oui. On peut dire que tous les matchs sont importants à présent. Hein.
Oui, mais
il ne faut rien négliger.
Moi, je pense que ce que je disais tout à l'heure, les déplacements à Paris, Monaco, Lille, tu verras. Rien ne dit que tu ne vas pas faire un résultat. Moi, je
mais là, il reste 12 journées, il y a encore 36 points à distribuer.
Hein. Déjà, gagnons les trois prochains matchs qui paraissent, je dirais,
Là, quand on regarde le calendrier de l'OM, on voit qu'il y a, sur les trois prochains matchs avant le déplacement à Paris au Parc des Princes le 16 mars prochain, il y a quand même deux matchs à domicile face au FC Nantes et au Racing Club de Lens. C'est ce déplacement qu'on vient d'évoquer sur la pelouse de la Baie des Champs au Auxerre samedi prochain.
Il faut gagner à tout prix.
Si tu prends
ça doit faire 9 points sur les 3 prochains matchs.
On est tout à fait d'accord.
Sinon, il faudra que tu ailles chercher les points à Paris, à Monaco ou à Lille.
Après, c'est vrai que le calendrier va forcément se corser sur, après le déplacement à Paris. Donc, autant faire le plein sur ces 3 prochains matchs.
Je pense que dans l'imaginaire collectif et au-delà de la justesse footballistique, c'est déjà prenons les matchs les uns après les autres et à ce moment-là, gagnons chaque match. Voilà. Je pense que c'est l'idée collective qui est présente dans nos joueurs.
C'est pour ça que, comme on disait tout à l'heure, je ne pense pas que De Zerbi prenne le risque de changer sa structure d'équipe.
On voit que ça fait depuis plusieurs semaines qu'il a trouvé la bonne formule et que, bon, c'est vrai qu'il y a les nouvelles recrues qui se sont bien intégrées, telles que Dedic, Ismaël Benacer, qui a trouvé sa place assez rapidement.
Ah, c'est super.
Guiri, qui est très bon.
Et Guiri aussi.
Qui fait d'excellents matchs.
L'implication de ces joueurs qui est notable. Hein.
Donc je ne pense pas qu'ils prennent le risque parce qu'on rappelle que quand même De Zerbi, à Brighton, comme à Sassuolo, comme à Shakhtar Donetsk, ils jouaient en 4-3-3. Hein. Ils ne jouaient pas avec une défense à 3. Il l'a fait localement parce que...
Non, mais c'est vrai que lors de ses expériences précédentes, que ce soit en Angleterre, en Italie ou en Ukraine, il a toujours opté pour ce schéma tactique. Donc, on le voit mal modifié, tout chamboulé ici à l'OM.
Il est vrai, puis il avait une gestion de groupe qui était différente avec d'autres compétitions lorsqu'il était en Angleterre, en Italie.
Mais c'est vrai que là, il a des couloirs de qualité. Pas super défenseur, mais...
Mais là, en sachant que le calendrier de l'OM est allégé, puisqu'il n'y a que le championnat et la Ligue 1 à disputer jusqu'à la fin de la saison.
Donc, je dirais money time et show time. Allons au bout.
Donc, moi, je pense qu'il ne changera pas son style, son organisation. Mais je pense qu'il va surtout travailler tactiquement pour contrer Auxerre. Auxerre est une équipe qui aime te laisser le ballon pour te contrer. C'est ce qu'il nous avait fait au Vélodrome. Hein. On prend 3 buts, 3 contre.
Il y a quand même une revanche à prendre sur cette équipe auxerroise qui s'est imposée haut la main au Vélodrome au mois de novembre dernier lors du match aller.
En même temps, ils ont utilisé finalement un peu nos ficelles, entre guillemets, puisque c'est un peu notre méthode de jeu sans le vouloir. On aspire les adversaires, on les fatigue, sauf qu'Auxerre ne fera pas la même chose avec nous. Mais au match aller, on avait eu évidemment quelques difficultés, c'est le cas de le dire, 3-1 face à eux. Ils ont profité justement des espaces et des contres qu'ils ont justement réussi à optimiser.
C'est vrai, après, cette équipe de Christophe Pélissier, elle est 12e au classement avec 25 points. Donc, c'est quand même une équipe qui est plutôt bien engagée pour assurer son maintien et à nouveau être en Ligue 1 la saison prochaine. Donc, un match plutôt sans pression pour cette réception de l'OM samedi prochain.
C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas favoris. Ils ont après, on sait que toujours
c'est donc, important ce que tu dis, Patrick.
Mais c'est vrai que les matchs face à l'OM, c'est toujours des matchs particuliers pour ce genre d'équipe.
Donc, eux, ils vont t'attendre, ils vont essayer de te contrer. Et si toi, tu le fais, rappelons qu'ils ont fait, alors, leur gardien marchait sur l'eau, mais ils avaient fait 0-0 contre Paris. Ils ont tenu tout le match, voilà, avec pratiquement pas d'occasion, mais donc, voilà. Et
même si on voit quand même que cette équipe d'Auxerre, ça fait depuis plusieurs semaines qu'elle est quand même un petit peu en difficulté. Oui. Hein. On voit que les résultats sont moins présents que...
Pélissier a justement envoyé quelques coups de gueule envers ses joueurs parce qu'il n'était pas content de leur prestation dernière. Bon, j'imagine que son discours face à nous sera, je dirais, à même de... les amener justement.
Il est capable de remobiliser son vestiaire pour.
Tout à fait.
Ben, c'est-à-dire, il va dire bêtement on n'est pas maintenu, mais on a de bonnes chances. Il y a du monde derrière plus faible que nous. Qu'est-ce qu'on a à perdre contre l'OM? On les attend, et si on tient le 0-0, on va essayer de leur mettre un contre, en espérant pour lui, pas pour nous, que le jeune Ahmed Traoré, là.
Ouais.
Qui nous avait marqué un but au Vélodrome.
Il nous avait fait mal, lui.
Il nous avait fait mal, il est rapide, il est dribbleur, que sur une contre, ben, tu essayes d'en mettre un. Quoi. Donc il va falloir rester costaud, parce qu'on sait que les titres comme les qualifs, ça se gagne en prenant des points là où. Dans des matchs où tu n'es pas terrible, mais tu raccroches.
J'en reviens à ce terme que j'utilise souvent.
Très, très vite,
puisqu'on
arrive sur la...
Voilà, fait, oui.
Voilà. Eh ben, c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter, les amis. Voilà, ben, on a fait le tour de l'actualité et c'est très vite passé cette petite heure. Quoi.
Absolument. Voilà, ben, ça fait plaisir de renouveler ce trinôme que finalement fait du bien à l'OM et nous fait du bien également.
Voilà. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et donc, l'OM, donc, prochain rendez-vous, ça sera un déplacement à la Baie des Champs face à la Jouxère, samedi soir à 21h05, coup d'envoi. Voilà. Bye bye à tous et à la semaine prochaine.
À toutes et à tous.